Julia Trangeval.
Bonjour, une émission sous le signe d'Averroès et du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Le savant, l'un des plus importants du monde islamique au XIIe siècle, grand commentateur d'Aristote, marque la pénétration des philosophes musulmans dans la chrétienté occidentale. Cette figure symbolique a-t-elle encore un sens aujourd'hui ? Dans « Faut-il brûler Averroès ?», publié chez Rive-Neuve, Thierry Fabre lance un cri d'alerte face à la régression identitaire, au racisme décomplexé qui voudrait éradiquer les sources arabes de la culture européenne. Bonjour Thierry Fabre.
Bonjour.
Fondateur des Rencontres d'Averroès, auteur de « Faut-il brûler Averroès ?», avec une question qui ouvre cet ouvrage paru chez Rive-Neuve. Que nous arrive-t-il aujourd'hui ?
Ce qui nous arrive en pleine face et qu'il faut regarder, c'est une vague d'une puissance considérable qu'on peut appeler national-populiste, identitaire, trumpiste, avec toutes les ondes de choc que ça fait naître, qui percute nos sociétés européennes et méditerranéennes. Et je lis dans le livre une petite phrase de Régis Debray qui dit « Mondialisation des objets, tribalisation des sujets ». Et en fait, c'est concomitant. C'est-à-dire que les poussées nationalistes et identitaires sont aussi le fruit de cette époque qu'on a appelée de la mondialisation ou de la globalisation. Ça va avec. Et c'est le fait de se sentir perdu et de se raccrocher à des esquifs identitaires comme des causes perdues. Et en même temps, ça mobilise des passions collectives extrêmement puissantes. Et dans ce livre, ce que j'essaie de nommer, de penser, d'éclairer, c'est la montée en puissance des passions identitaires qui deviennent dans un certain nombre de pays plus fortes que les passions démocratiques.
Ces passions identitaires, elles ont un bouc émissaire, une victime désignée, c'est l'islam, ce sont les musulmans.
Il y a deux cibles, deux mots clés qui sont islam et immigration. Il y a une masse de paroles, de propos qui construisent finalement la figure de l'ennemi de l'intérieur et qui nous coupe de nos relations historiques entre les deux rives de la Méditerranée et notamment avec le Maghreb et qui sont des relations historiques qui sont liées à une histoire violente qui est celle évidemment de la conquête et de la colonisation, mais pas seulement. L'histoire des relations entre la France, l'Europe et le Maghreb, le monde arabe, ne date pas de 1830. C'est des liens au long cours qu'on en est en train de briser par une vision à courte vue qui me paraît très troublante parce que la France est un pays qui a une longue histoire, plus que millénaire. Et donc de voir ce pays être troublé dans son identité, jusqu'à entendre au sommet de l'État un risque de submersion ou un sentiment de submersion, et avec ce discours « on est chez nous, cassez-vous, sortez d'ici, vous n'avez aucune place ici ». Et ça, en fait, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, de déplier, c'est que c'est quelque chose qui vient de loin. Il vient pas simplement de l'histoire coloniale, et c'est pour ça que je reviens à l'histoire d'Averroès, ce philosophe, juriste, critique andalou, né à Cordoue, mort à Marrakech au XIIe siècle. Lors des premières rencontres d'Averroès avec le philosophe Alain Libéra, professeur honoraire au Collège de France, il parlait d'une figure arabe de l'héritage oublié. Et quel est cet héritage ? Eh bien, c'est les sources arabes de la culture européenne. Elles existent, elles sont jamais enseignées. Comme le dit très bien Sophie Bessis, il y a une imposture judéo-chrétienne, terme qui est apparu largement après 1945 pour récupérer l'antisémitisme extrêmement puissant dans nos sociétés dans les années 30. Et aujourd'hui, on voit exprimer, émerger une nouvelle figure de l'ennemi, de celui qu'il faut détruire, expulser, etc., qui est la figure du musulman. Un peu comme dans les camps, on parlait du musulman, c'était le dernier des derniers. Et donc, il y a quelque chose de puissant et que peut-être il faut penser, déplier, sans être dans la complaisance. Je crois qu'il faut, par exemple, regarder bien en face le choc produit par les attentats.
Oui, vous dites que ce 21e siècle n'est pas une répétition du 20e.
Non, c'est pour ça que l'incantation antifasciste est à côté de la plaque. Parce que l'antisémitisme des années 30 est antérieur, mais si puissant dans les années 30 qui va amener à la destruction des Juifs d'Europe, il n'y a pas d'attentat commis par des groupes juifs dans les sociétés européennes. Or, les attentats terroristes, moi je suis très camusien et donc Camus a montré ce que c'est dans Les Justes que Le militant nihiliste refuse de lancer la bombe. Il veut tuer l'archiduc, mais il ne veut pas tuer deux enfants qui sont à côté. C'est-à-dire, on ne s'attaque pas à des innocents, on ne s'attaque pas à des civils, etc. Or, ce qui s'est produit avec un déraillement de l'islam politique, de l'islamisme, du djihadisme, c'est on s'attaque à n'importe quel civil. Et ça, je crois qu'on a sous-estimé en France le choc que ça a produit, avec évidemment l'onde de choc du 11 septembre 2001, et puis la vague d'attentats. Il y a eu des attentats venant de la décennie noire et de la guerre civile en Algérie, des attentats venant de l'Iran, des attentats de l'hypercacher, et toute cette vague jusqu'à ces symboles les plus puissants dans l'imaginaire politique français que sont des professeurs, comme Samuel Paty, qui a été égorgé. Et donc, voilà, je crois qu'il faut, si on ne veut pas avoir un regard bien pensant, complaisant, prendre en charge cette dimension-là et porter un autre regard beaucoup plus critique, pas de complaisance avec cette tentative, là aussi, d'expansion de l'islam, sans parler des djihadistes qui sont partis de leur propre gré en Syrie et qui ont instrumenté des attentats en France. Et pour moi, ce sont des actes de haute trahison. Ils ont trahi leurs compatriotes. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être ferme si on veut sortir de ce face-à-face et inventer un monde commun.
Vous écrivez depuis Marseille, vous l'avez mentionné. Est-ce que c'est ça qui vous permet aussi d'avoir ce regard particulier sur cette partie du monde, sur les rapports entre les deux rives de la Méditerranée ?
Je crois, oui. Moi, je suis né à Cannes. J'y ai passé mes 17 premières années, puis j'ai fini de faire mes études à Paris. J'ai commencé à être chercheur, puis j'ai travaillé à l'Institut du monde arabe. Et c'est vrai qu'au bout de 17 ans, j'en avais assez de regarder la Méditerranée, loin de la Méditerranée, et que j'ai choisi d'aller vivre à Marseille. Et de ce point de vue, ça change le regard. Parce que Marseille est une ville sismographe qui est connectée avec tout ce qui se joue avec en Méditerranée, et particulièrement, évidemment, avec le Maghreb. Regarder la France depuis Paris ou depuis Marseille, on ne voit pas la même chose. Et notamment sur ses passions identitaires, Paris et sa région est assez épargnée par rapport à ça, par rapport à ce qu'on voit. Nous, on est dans des scores de 25-30%. Enfin, aux deux dernières élections régionales de la région Sud, il n'y avait plus que la droite et l'extrême droite. Donc, ce qui nous arrive, on le sent de près. Et en même temps, ce monde méditerranéen, cette multiplicité constitutive qui fait cette ville, avec tous ses héritages et toutes ses strates, nous apporte quelque chose et nous dit quelque chose. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour le pape qui vient de nous quitter parce qu'il a choisi de venir, il l'a dit, non pas en France, mais à Marseille. Il développe ce qu'il appelle une théologie méditerranéenne. Il est allé à Lampedusa et il est allé à Marseille. Il est allé aussi dans les îles grecques. Parce qu'il se passe là quelque chose qui, du point de vue du pape, change la donne. Or, le pape est l'ennemi intime de tous ceux qui défendent l'idée de l'Occident chrétien. Et ils sont nombreux, et ils sont violents, et ils sont au pouvoir dans un certain nombre de médias aujourd'hui. Et le pape, heureusement, a déplacé ce discours-là et était pour la pluralité religieuse. Et il a lancé des initiatives, des actes, que ce soit en Égypte, à El-Azhar ou en Irak, considérables pour montrer que la guerre des civilisations et encore plus la guerre de religion, ce n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est très important quand les passions collectives sont embrasées après des attentats, comme celui dans l'église avec l'égorgement du Père Hamel, qui sont des actes extrêmement violents que je ne sous-estime pas. Mais le pape, c'est une puissance symbolique. Or, le symbole, au sens propre, c'est ce qui fait tenir ensemble. Et donc, si on ne veut pas qu'il y ait de la propagation de la violence, il faut de la pensée, du sens, des figures qui incarnent ce pouvoir symbolique. Et il me semble que le pape était à cet égard une très grande figure. Et donc, moi, je voudrais lui rendre hommage parce que lui, qui venait pas de la Méditerranée, mais d'Argentine, enfin, il est d'origine italienne, mais a compris ce qui se jouait là, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, et qui n'est pas qu'un désastre, ça peut être une promesse.
D'une figure à l'autre, on revient à Averroès. On va répondre à la question de Sully. Faut-il brûler, poignarder Averroès ?
Certains sont tentés de le faire. J'ai essayé de rythmer ce livre en trois chapitres. Vous n'êtes pas d'ici, dehors. Nous sommes tous d'ici, faisons semblant. Et nous serons tous d'ici, qui est évidemment l'exact contraire de faut-il brûler ou poignarder Averroès. En n'oubliant pas qu'Averroès, c'est la pensée critique dans l'islam. Et qu'il y a une pensée critique dans l'islam, mais qu'on ne la voit pas et qu'on ne veut pas la voir. Et moi, je crois qu'il y a, dans la société française, beaucoup de compatriotes musulmans français qui ont totalement approprié les catégories et les valeurs de la démocratie. Et ce discours essentialiste de penser que l'islam est incompatible avec la démocratie, vous savez, au XIXe siècle, pendant très longtemps, l'Église catholique ne se revendiquait pas de la démocratie. Il faut sortir des essentialismes culturels et être dans des trajectoires, dans des histoires. Donc, le « nous serons tous d'ici » me paraît être un horizon extrêmement porteur. Et que cette formule toute simple, tout le monde peut se l'approprier. Mais ça veut dire que ce n'est pas gagné. C'est un combat politique, culturel. Or, il y a très peu de lieux, d'institutions culturelles, artistiques, de politiques publiques qui prennent en compte cette dimension-là. Et je pense qu'il est temps de prendre conscience de ce qui nous arrive et d'inventer des chemins pour faire monde commun.
Merci beaucoup Thierry Fabre.
Merci à vous.
Je suis parti d'en bas à la Maybach, non c'est parle pas dans le coffre, y'a des pare-balles, je connais par cœur, quartier nord quand t'es par terre, les guitares pleurent, ouais on serre mais on part pas. Et je regrette rien, le temps passe, et y'a ma t'inquiète, maintenant rien que j'encaisse. Je rêvais d'un palais, la mer juste en face, encore quelques millions et je quitte la France. Il se rappellera plus de la veille, au goulot bois la jack avec l'abeille. Dégoûté de la ville, attend juste la faille, 3, 4, 5 factures qui prennent toute la paye. En vrai je voulais juste la paix, les millions d'euros je pouvais que les imaginer. Je regarde le ciel et je pense à mes frères partis, mais à part ça je peux rien faire, je peux que patienter. Tête de bico dans l'hélico, que des finales, pas d'amico. Dans leur vie font les mythos, c'est la mi-temps, j'en ai mis 4, fat au micro. Dans le ghetto y'a le métal, y'a le béton, y'a les rafales, y'a les patrons, y'a le guettage, y'a pas trop de pardon. Y'a la sacoche, y'a les descentes, tous ces petits frères que l'on descend. Ouais j'arrête pas de fauter, le soir j'arrête pas de douter. Imam a dit, will dit, he dit de nian. Sur moi je les entends, je suis choqué, ils m'ont trahi, je suis choqué, imam a dit Osman heavy de nian. Façon ça ira, demain on oubliera. C'est avec le cœur que je t'ai donné, moi je comptais pas.
L'Algérino ça ira dans Carrefour du Maghreb. Reporters sans frontières a publié son classement mondial de la liberté de la presse. En Afrique du Nord, la Tunisie recule, désormais classée à la 129e place sur 180 pays. Et l'Égypte reste l'un des pires pays au monde pour les journalistes, 170e. À l'occasion des Assises méditerranéennes du journalisme qui se sont tenues à Marseille, rencontre avec deux femmes journalistes, l'une égyptienne, Dalia Shams, journaliste à Al Ahram, l'autre tunisienne.
Je m'appelle Riha Boukhayatea, je suis journaliste à Nawet, qui est un média indépendant en Tunisie. Je travaille sur des thématiques relatives aux droits et libertés, sur des sujets de société, entre la politique actuellement et les libertés en Tunisie par exemple.
Est-ce que ces dernières années, avec le régime de Kais Saied, la situation a changé pour les journalistes?
Disons qu'on revient à la case de départ. En 2004, on était sous la dictature de Ben Ali. Et maintenant, on revient à cette forme de dictature. Ben Ali faisait un peu bien, entre guillemets, les choses. C'était bien ficelé quand il montait des affaires contre des opposants. Maintenant, c'est de la répression systématique. Les gens sont emprisonnés pour un mot. Ça devient très difficile de s'exprimer parce qu'on risque la prison actuellement.
Est-ce que pour une publication comme Nawad qui écrit en français, en arabe, en anglais, la pression se joue ailleurs aussi?
Ça vient d'abord du régime et des supporters du régime sur les réseaux sociaux. C'est difficile pour nous de travailler, mais on le fait, il n'y a pas d'autocensure. Et on connaît les risques du métier, et là, actuellement, ils sont plus nombreux, bien plus dangereux. Et après, la pression aussi, elle est financière. On n'est pas financé par le privé, on n'a pas de la publicité, etc. On n'en reçoit pas de subventions publiques. On est financé par des bailleurs de fonds étrangers. Et qu'est-ce que fait le régime? Il bloque ses financements au niveau de la Banque centrale. On a du mal à recevoir ces fonds-là. Il y a tout un discours anti, entre guillemets, ingérence étrangère. On est accusé d'être la solde des étrangers parce qu'on reçoit donc leur financement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et tant qu'ils n'interviennent pas dans notre ligne éditoriale, dans les sujets qu'on traite, on reçoit cet argent-là. C'est clair, c'est vrai, on n'est pas indépendant financièrement, mais on l'est sur le plan éditorial, c'est ce qui compte.
Est-ce que le fait que les Américains, par exemple, aient coupé les fonds un peu partout dans le monde, est-ce que ça a une conséquence pour vous aussi?
Oui, une partie de notre financement est américaine. Et avec Trump, il y a des fonds qui sont bloqués. On a d'autres financements qui viennent, par exemple, des Allemands, qui est la fondation, qui sont liés à des partis politiques. Ça dépend des élections. Et comme l'extrême droite, elle est un peu partout, c'est difficile aussi d'accéder à ces fonds-là. Ça constitue une pression pour nous, pour l'avenir.
Vous êtes ici à Marseille, qu'est-ce que vous êtes venu porter comme voix ?
Dire que c'est important de soutenir des médias indépendants, on n'est pas très nombreux en Tunisie, aussi les médias francophones, parce qu'il y a beaucoup d'attaques aussi, pourquoi vous écrivez en français, c'est la langue des colons, comme si l'arabe est arrivé en Tunisie, comme ça, c'est aussi par des invasions, par la guerre, etc., aussi l'histoire, donc la francophonie, ça fait partie d'une composante essentielle pour nous, parce que le dialecte, il y a beaucoup de mots en français, parce que c'est les résidus aussi de la colonisation, mais c'est une bonne chose, on s'ouvre à une autre langue, et c'est bien de pouvoir aussi parler de cet aspect-là.
Gros temps sur l'information, on l'entend dans la voix de Ria Boukayatia, l'économie qui étrangle l'information mondiale, la question de la langue utilisée, mais aussi la remise en cause des discours dominants dans les médias. Une question devenue encore plus aiguë pour les journalistes du Sud depuis le 7 octobre, comme l'explique Dalia Shams, journaliste au quotidien égyptien à l'Aram.
Moi, personnellement, j'attends rien du tout de personne. On a vu comment ça s'est passé depuis la guerre génocidaire à Gaza. Moi, j'avais des amis palestiniens avant et je voyais comment ils étaient nihilistes. Ils ne croient plus en rien, depuis très longtemps, même avant ça. Et maintenant, j'ai compris, je suis devenue un peu comme eux parce que je ne crois plus en rien. Et j'attends plus rien de personne. Mon père, il a 92 ans. Il est toujours devant sa télé, en train de regarder tout ce qui se passe. Mais aussi, à chaque fois qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, de l'ONU, etc., il est là, il écoute toutes les séances, attentivement. Je lui dis, tu penses arriver à quoi là ? Rien ne va se faire. Et lui, il me dit, non, mais c'est pas possible. Parce que lui, justement, il n'arrive pas à comprendre l'idée qu'avec toutes ces instances internationales, sur le plan humain, il pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Et contrairement à lui, moi je pense qu'on voit qu'on peut facilement être au Moyen-Âge du jour au lendemain.
Venir à Marseille, participer à des assises des journalistes méditerranéens, c'est dans quelle perspective alors ?
Il y a quelque chose qui peut changer au niveau du journalisme. On peut faire parvenir notre voix quelque part, couvrir les choses différemment, etc. Ça sera à nous, les journalistes de cette région aussi, de le faire. À mon avis, ce genre de réunion, c'est l'occasion de faire du réseautage, d'entrer en contact avec des gens de partout. Forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe et qui peuvent se mettre ensemble. Parce que même depuis le printemps arabe, on rêvait beaucoup de choses, pour le journalisme entre autres. Bien sûr, tout ça, c'est arrivé à rien en ce moment. Mais je me disais depuis, avec autant de journalistes qui sont partis, même de leur pays, parce qu'ils sont en exil, ou parce qu'ils sont réfugiés, ou ils sont installés quelque part, ou ils ont eu des bourses ailleurs, etc. Nous, notre problème au départ, c'était, je parle de l'Égypte, on n'a pas par exemple d'école de journalisme. Donc les gens apprennent sur le tas, ou bien ils sont formés à l'étranger quand ils ont l'occasion de le faire. On a des facultés de communication, mais on est trop dans la théorie de la communication, plus que le vrai journalisme. Donc les gens, pour des raisons politiques par exemple, qui ont dû partir de chez eux, ils ont vu autre chose. Il y a des gens qui ont dû travailler dans des médias étrangers. Par exemple, Trump, on a vu qu'il a mis plein de gens à la porte qui travaillaient pour les médias publics destinés à l'étranger. Il y a des Arabes et des arabophones en général qui ont travaillé dans ce genre de chaîne, qui ont travaillé d'une manière différente peut-être que du journalisme dans leur pays. Et du coup, ils peuvent se mettre tous ensemble. Et à mon avis, ça peut donner un de ces jours quelque chose.
Dalia Shams, journaliste au quotidien égyptien à l'Aram. Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.